Ce matin, on continue notre série dans Jean. Et à travers notre série dans Jean, on veut contempler la gloire de Christ. Puis moi, je vous encourage cet après-midi à aller contempler la nature, à prendre du soleil, prendre de l'air, aller marcher, profitez-en. Ce matin, on termine l'introduction de l'Évangile de Jean. Il y a quatre évangiles pour ceux qui ne sont pas familiers, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Celui-là est vraiment différent des autres et souvent on appelle ça le prologue, l'introduction. C'est les 18 premiers versets et ce matin on va compléter avec les versets 14 à 18. C'est très différent des trois autres évangiles dans le sens que c'est comme si Jean veut s'assurer qu'on va saisir à travers son évangile la grandeur de Christ. Et donc, il commence en nous donnant le big picture, la grande image de la grandeur de Jésus-Christ. Et il nous dit, c'est pas simplement que Dieu a envoyé un sauveur. C'est que Dieu lui-même est venu dans la personne de son Fils, Dieu, le Fils unique, est venu parmi les hommes. Puis en fait, il y a des mots qui sont utilisés au début de l'Évangile de Jean, que Jean n'utilisera plus jamais à travers tout le reste de l'Évangile. Et donc, on doit garder ça en tête, parce qu'il nous donne le punch au départ et il nous dépeint la grandeur de Christ. Puis, tout à l'heure, je vais revenir un petit peu sur cette idée-là, mais pour bien comprendre ce qui se passe ici dans les versets 14 à 18, il faut savoir qu'il y a une allusion à un passage très important dans l'Ancien Testament. Alors, pour ceux qui sont familiers, dans l'Ancien Testament, il y a un moment où Moïse, le leader d'Israël, le prophète de Dieu, va dans la présence de Dieu, dans la tente d'assignation. Et puis, Dieu aussi, à un certain moment donné, va lui manifester sa gloire, dans Exode 33, 34. Et donc, Moïse va voir la gloire de Dieu, il va contempler sa gloire. Retenez ces mots-là. Et Dieu va lui donner des instructions pour construire une maison qui s'appelle le tabernacle. Ça va être une tente dans laquelle Dieu va être présent, à travers laquelle Dieu va être présent au milieu de son peuple. Alors, gardez ça en tête parce que Jean est en train de faire un parallèle. Jean veut que nous voyions toute la grandeur de Christ. Parce que lorsqu'on apprend à contempler la grandeur de Christ, on apprend à connaître Dieu. On va prier ensemble avant de passer à la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, dans ce même évangile, dans l'évangile de Jean, tu nous as donné une promesse extraordinaire. Tu nous as promis de venir à toi et de demander. Tu dis dans Jean 16, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie sois parfaite. » Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin et voici notre requête, voici notre demande, Seigneur. Viens nous montrer ta gloire. Viens te faire connaître à nous, Seigneur. Aide-nous à recevoir tout ce que tu as pour chacun d'entre nous dans ce passage, Seigneur. Viens faire une impression, Seigneur, indélébile sur nos âmes, sur nos cœurs, par ta grandeur, ta majesté, Seigneur. Parce que nous voulons connaître Dieu. C'est en ton précieux nom qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré de Jean, chapitre 1, versets 14 à 18 de la nouvelle édition de Genève. Donc, je répète, Jean, chapitre 1, versets 14 à 18, nouvelle édition de Genève. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.
Merci, Luc. La semaine dernière, j'ai mentionné ma prière, notre prière, c'est qu'à travers cette série-là, Dieu nous révèle la grandeur de Christ, à nouveau. Je pense qu'on ne terminera jamais d'apprécier ce que Dieu a fait envers nous en envoyant son Fils, en envoyant Dieu, le Fils unique, sur la terre, mourir sur la croix pour nos péchés. Et je pense qu'une des clés, sinon la clé la plus importante, pour jouir vraiment de la vie chrétienne, c'est de garder les yeux fixés sur Christ. Que Christ soit tout pour nous, que sa gloire nous soit manifestée, et là on trouve une joie, on trouve une paix en lui, dans ce qu'il a fait pour nous, dans ce qu'il a accompli pour nous. Pourquoi est-ce qu'on veut contempler sa gloire? C'est parce que Christ mérite ça. Lorsque tu réalises que Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils, tu dis, il mérite ça. Il mérite que je l'adore. Je ne suis pas en train de blasphémer. Je ne suis pas en train d'offenser Dieu comme si j'adorais un petit Dieu. Je suis en train d'adorer Dieu lui-même. Mais la deuxième raison pour laquelle je veux contempler Christ dans toute sa gloire, c'est parce que c'est à travers Christ que je vais trouver la vie. C'est à travers lui que je vais trouver la paix. C'est à travers lui que je vais trouver la joie. Dieu veut me conduire dans une abondance de vie, une abondance de joie, une abondance de paix, même dans cette vie ici-bas. Et ça, ça se trouve seulement en voyant la grandeur de Christ. Je suis en train de lire un livre, juste pour le plaisir d'élargir un petit peu mes connaissances. Ça a été un gros succès, ça s'appelle Mindset de Carol Dweck. Et puis, c'est une psychologue. Et puis, elle émet l'hypothèse suivante dans son livre. Elle dit, ce que nous croyons détermine, ce qu'on croit sur nous-mêmes détermine énormément de ce qu'on va pouvoir accomplir dans la vie. C'est intéressant, le livre est intéressant. Ce que je trouve fascinant avec les Écritures, c'est que la Bible me dit que ça ne commence pas parce que je crois sur moi. Ce n'est pas là que ça commence. C'est ce que je crois sur Dieu. Je dois commencer par Dieu, le connaître, croire en lui, pour ensuite découvrir qui je suis. C'est très, 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 très différent. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, si on commence par Christ, si on saisit qui il est, si on contemple sa gloire, si on voit combien il est majestueux, combien il est gracieux, combien il est bon, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir une abondance de vie dans ma propre vie. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Contempler Jésus-Christ, c'est connaître Dieu et recevoir de lui grâce après grâce après grâce. Le tabernacle de Dieu. On lit dans Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Tout à l'heure, je disais qu'il y a des allusions claires dans ce passage-là à Exode 33, 34, où Moïse va dans la présence de Dieu puis il contemple la gloire de Dieu. Puis dans le passage, il nous est dit que la gloire de Christ, c'est la gloire comme celle du Fils unique qui vient du Père. Et puis il nous a dit au début de Jean, au tout début, dans les premiers versets, que en fait, c'est Dieu lui-même. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc, il y a une allusion claire à cette idée que lorsqu'on contemple Christ, on contemple la gloire de Dieu. On contemple la gloire du Dieu qui s'est fait connaître à nous. Maintenant, dans le passage, c'est aussi écrit « Et elle a habité parmi nous ». Alors, suivez-moi, une petite subtilité qui n'est pas accessible dans le français, mais c'est vraiment intéressant de le savoir. D'abord, vous devez savoir qu'il y a une version qui était en circulation déjà à l'époque, très importante, de l'Ancien Testament qui était en grec, d'accord? Donc, lorsqu'on pense à la Bible, généralement, on va penser à l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec, c'est une question d'époque, c'est une question de pays. Mais il y avait une version grecque de l'Ancien Testament qui était en circulation. C'était en fait ce qui était le plus connu dans l'Empire romain à l'époque. Et donc, dans la version grecque, il y a un mot qui est utilisé qu'on retrouve ici dans Jean. Un verbe, en fait, dans Jean, c'est « il a habité », »,« elle a habité parmi nous ». Le mot grec qui est là, c'est le même mot qui va être utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament pour le tabernacle. C'est la même chose qui est là. Et donc, c'était quoi le tabernacle? Bien, dans l'Ancien Testament, Dieu a fait une alliance avec un peuple, c'était le peuple juif. Il a dit « je vais faire alliance avec vous, vous allez être mon peuple, je vais être votre Dieu, et voici le signe de l'alliance que je vais faire avec vous, je vais habiter au milieu de vous ». Dans les Écritures, si vous n'êtes pas familier avec la Bible, Dieu est saint. Dieu est tellement saint que des gens imparfaits comme vous et moi, des pécheurs, ne peuvent pas entrer en toute liberté dans la présence de Dieu. Et donc, Dieu se tient à l'écart des hommes pécheurs. Il veut prendre soin d'eux, mais il ne peut pas s'approcher d'eux comme ça. Et Dieu contracte une alliance. Il fait une alliance avec ce peuple-là et il dit, « Voici le signe que je fais une alliance avec vous. Je vais habiter au milieu de vous. » Comment est-ce que je vais habiter au milieu de vous? Il donne des instructions à Moïse et puis il dit, « Vous allez construire une tente, une énorme tente dans laquelle il va y avoir un lieu saint, un lieu très saint. Et moi, ma présence va toujours être là au milieu de cette tente. Cette tente-là va être au milieu du peuple. Le peuple devait camper autour de la tente. Et donc, c'était le signe de la présence de Dieu. Plus tard, lorsqu'ils vont entrer dans la terre promise, ils vont voir leur pays, la tente va se transformer en temple. Mais c'est encore une fois un signe de la présence de Dieu au milieu du peuple. Et c'est le même mot grec que j'ai dans les deux endroits. C'est comme si Dieu, et là, je ne suis pas en train de faire une mauvaise blague avec les Québécois qui aiment sacrer avec les noms divins, c'est comme si Dieu est en train de dire, Dieu est venu tabernacler au milieu des hommes. C'est important de le saisir parce que ce qu'on apprend dans Jean ici, c'est que Dieu n'a pas seulement envoyé un sauveur. Dieu n'a pas seulement dit, je vais vous envoyer un homme qui va être votre sauveur. Non, c'est Dieu qui est venu vivre parmi nous. Donc, lorsqu'on parle de l'incarnation, on est en train de dire que Dieu est devenu l'un des nôtres. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu donne des directives pour la construction du tabernacle, Dieu est en train de faire une faveur incroyable au peuple d'Israël. Il dit, « Je vais toujours être au milieu de vous, je vais être présent avec vous, je ne serai pas loin de vous. » Mais Dieu est à l'intérieur du tabernacle. Sa présence était là. Il y avait des parvis, il y avait une clôture qui séparait. Il y avait un moment dans l'année où le souverain sacrificateur était désigné, devait se purifier, il pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus, ce même Dieu vient et devient l'un des nôtres. Et ce que Jean est en train de dire ici, c'est que Christ est notre tabernacle. Christ a adopté une chair humaine. Il est devenu un être humain. Vous ne trouvez pas ça nulle part dans aucune religion sur la terre, cette idée que Dieu est devenu vraiment l'un des nôtres. Il s'est incarné, il est devenu comme nous. Et ce n'est pas juste comme si, Dieu était venu faire un passage sur la terre, tu sais, puis il a dit, « OK, moi je suis un esprit, je suis difficile à comprendre. C'est comme c'est abstrait, Dieu c'est abstrait. Fait que je vais prendre une forme humaine. » Tout d'un coup, tu sais, bouf, je vais apparaître comme un être humain, puis là, je vais vous parler, ça va être plus concret pour vous. C'est pas ça qui s'est passé. Puis ensuite, il repart, tu sais, puis tout, son enveloppe tombe par terre. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Dieu est devenu un être humain. Dieu, le Fils, est devenu un être humain. En naissant en Jésus de Nazareth, il est devenu un être humain. Puis il va l'être à jamais, pour toujours. Il est devenu l'un des nôtres. Je ne sais pas si vous vous rappelez mon illustration la semaine dernière avec la reine d'Angleterre qui vient nous visiter au Canada, dans ses territoires. Puis elle vient en habit d'apparat, puis on déploie l'armée, puis tout le kit hein, pour la protection de la reine. Là, on dit, bon, OK, c'est sympa, tu sais. Mais là, on passe à un autre niveau. Meghan et Harry. Épisode 2, saison 2. Se dépouillent de leur majesté puis viennent vivre au Canada. Déjà, on s'approche, tu sais. Maintenant, si on parle de Jésus, il faudrait que Meghan devienne votre femme de ménage. Ce serait intéressant. Harry, votre chauffeur. Ce serait intéressant, non? Puis on n'est même pas rendu encore. Parce que voyez-vous, dans l'Évangile de Jean, le summum de l'incarnation... Le moment où tu vois toute la gloire de Christ, c'est au moment où il est sur la croix. Non seulement il est devenu un des nôtres, puis il a embrassé notre humanité, il a pleuré lorsque son ami Lazare est mort. Christ comprend ce qu'on vit, mais plus que ça, il a embrassé notre fragilité. Il a embrassé notre mortalité. Il est devenu l'un des nôtres au point de pouvoir mourir. Plus que ça encore, l'apôtre Paul nous dit que Jésus, qui était sans péché, qui n'avait jamais commis de péché, dans 2 Corinthiens, Paul nous dit qu'il a été fait péché. Je sens qu'à un moment donné, je vais recevoir plein de petits trucs, tu sais, des produits naturels. T'essayes ça, Yannick, pour prêcher, tu ne tousseras plus. Paul nous dit dans 2 Corinthiens qu'il a été fait péché. Jésus n'a jamais péché. Mais sur la croix, il a pris mes péchés. Et si tu crois en lui, tes péchés. Et il a été fait péché à ta place. Saisir qui est Christ, saisir sa gloire, c'est réaliser que Dieu n'a pas juste envoyé un émissaire. Dieu n'a pas juste envoyé, n'a pas établi seulement une ambassade sur la terre. Puis il a dit, OK, si vous voulez me parler, vous irez voir mon émissaire. Je vous envoie un sauveur. Dieu est venu lui-même sur la terre. Il est devenu un être humain. Il est devenu l'un des nôtres. Il est devenu un serviteur. Je vais donner une illustration pour les geeks. On se prépare pour la Matrice 4 en 2021. Pour ceux qui me suivent, il doit y avoir 4 personnes. Okay, il reste 4 personnes avec moi. C'est juste pour ces 4-là. Soyez patients, les autres, d'accord? C'est comme si le concepteur de la Matrice avait décidé qu'il venait s'incarner entièrement dans la Matrice. Mais non seulement ça, il est devenu prisonnier lui-même de la Matrice afin de pouvoir briser le code puis qu'on puisse sortir puis entrer en relation avec lui. Il est devenu aussi vulnérable que nous. Et donc, lorsque vous pensez au christianisme, vous ne pouvez pas comparer le christianisme avec les autres religions de la terre. Vous ne trouverez pas dans une autre religion l'idée que le Créateur s'est fait créature au point de devenir vulnérable pour nous sauver de nous-mêmes. Vous ne le trouverez pas pour plusieurs raisons. C'est insupportable comme idée pour l'être humain de dire « t'as besoin d'être sauvé ». Et un occidental après l'humanisme n'est pas capable d'accepter ça. « Je suis mon propre sauveur. J'ai pas besoin d'un sauveur. » Oh, mais t'es un être très, très limité. Tu peux essayer de te sauver ta vie durant, mais tu sais, t'es arrivé nu comme un ver, tu vas repartir nu comme un ver. Tu sais pas quand est-ce que tu pars, ça peut se passer aujourd'hui, demain, tantôt. T'as aucun contrôle sur ces choses-là pour de vrai. Mais ça, c'est difficile à accepter. Puis dans d'autres religions, ce que vous allez trouver, c'est soit un Dieu extrêmement dur, extrêmement distant, froid, qui juge les hommes, ou encore une espèce de Dieu, des dieux qui nous ressemblent, qui sont aussi mesquins, aussi ordinaires que nous. Mais un Dieu qui est venu adopter notre nature, qui est devenu l'un des nôtres, après qu'on l'ait rejeté, qui est venu sur la croix adopter notre fragilité, notre mortalité, prendre le poids de nos péchés, qui a été fait péché, séparé de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Afin qu'on puisse entrer en relation avec lui, qui a adopté notre nature humaine pour l'éternité. Pour l'éternité, Dieu le Fils est aussi homme. Et donc, il est parfaitement en communion avec nous. Quand tu te sens loin de Dieu, si tu connais Jésus-Christ, prends le temps de méditer. C'est ça que je faisais cette semaine. Prends le temps de méditer. Pense tout de suite, là, excuse-moi de te faire ça ce matin, excusez-moi de vous faire ça. Pensez à ce qui vous a stressé le plus cette semaine. Pas le fun le dimanche matin. Pensez à ce qui vous a stressé le plus cette semaine. Cette anxiété-là, Christ compatit à ça. Parce qu'il a vécu ça et beaucoup plus encore sur la croix. Et si c'est de la tristesse, Christ a vécu la tristesse. Donc, il est vraiment l'un des nôtres qui compatit vraiment ce que nous vivons parce qu'il a vécu ce que nous vivons. Ce n'est pas juste que Dieu voit ce qui se passe dans ta tête, c'est qu'il a expérimenté cela. Avant de connaître Dieu, quand tu commences à entendre un peu parler de Dieu, souvent il y a un sentiment de distance avec Dieu. Dieu est extrêmement loin. Puis dans un sens, c'est légitime, c'est normal, tant que je n'ai pas placé ma foi en Jésus, de sentir que Dieu est loin de moi, parce que Dieu est très saint, puis moi je suis pécheur. Donc Dieu est très, très, très éloigné de moi. Et si tu as l'impression que Dieu est très, très loin de toi, Christ a vécu ça. Christ comprend ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même ça, il a vécu. Sans avoir péché, il a été fait péché. Et donc, il a ressenti ce regard du Dieu qui le regarde comme un pécheur, alors qu'il n'a pas commis de péché. Et c'est ce Seigneur-là qu'on adore. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Donc, ça implique non seulement qu'il comprend ce que je vis, il a compassion parce qu'il a vécu des choses similaires à bien des égards. Ça implique quelque chose d'autre aussi. Ça implique que nous, l'Église, on a commencé à voir ça la semaine dernière, on est appelé à incarner à notre tour Christ. Il est reparti auprès du Père, il intercède pour nous, il nous a donné son esprit, il habite en nous. L'Église est une incarnation de Christ. C'est notre appel. C'est ça qu'on est appelé à être, les uns pour les autres dans l'Église. C'est pour ça que plus loin dans l'Évangile de Jean, Jésus va dire, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ vont regarder l'Église, imparfaite, tellement imparfaite, mais ils vont regarder l'Église, se pardonner, s'aimer, prendre soin, se réconcilier. Et qu'est-ce qu'ils vont voir à travers ça? Ils vont connaître Christ. Mais non seulement les uns envers les autres, envers les gens de l'extérieur. Une des manières les plus frappantes à travers l'histoire de l'Église, où on voit l'Église incarner Christ devant les hommes, c'est lorsque la peste a frappé Rome. Et lorsque la peste a frappé Rome, les gens ont fui Rome, évidemment. Puis c'était déjà une période où les chrétiens étaient régulièrement persécutés à cause de leur foi. Et des centaines et des centaines et des centaines de chrétiens ont décidé de rester à Rome pour prendre soin des gens qui étaient malades. Mais ils savaient très bien qu'en faisant ça, ils allaient contracter eux-mêmes probablement la peste. Et vous savez quoi? Ce qui se passe actuellement en Chine, cherchez-le sur Internet, vous allez trouver des chrétiens qui vont distribuer des masques, qui vont vers les gens qui souffrent, qui vont consoler. Des chrétiens qui accueillent des Chinois qui sont en train de fuir la ville d'origine pour aller en province, puis les accueillent dans leur maison. Parce que les chrétiens, nous sommes appelés à incarner pour l'Église et pour le monde Christ. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que Dieu a fait pour nous. On est appelés à notre tour à faire ça. Et ça se traduit par toutes sortes de gestes très, très concrets, qui vont faire que les gens vont venir nous voir et vont nous dire, mais pourquoi tu es comme ça? D'où ça vient cette attitude-là? Au travail, avec les voisins, simplement ce réflexe-là d'aller se servir, d'aller se donner, d'aller se sacrifier. Simplement comprendre que je ne suis pas la reine d'Angleterre, je ne suis pas le prince Harry ou Meghan, je suis comme Christ, un serviteur. Et il n'y a pas de trop basse tâche pour moi. Cette semaine, cherche comment tu peux incarner Christ. Pour tes voisins, pour un frère, une sœur dans l'Église, pour quelqu'un dans l'Église, dans ta famille. Cherche comment tu peux être une incarnation de Christ à ton tour, de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Cherche concrètement comment ça peut devenir aussi tangible que Dieu le Fils qui devient un homme, qui pleure avec nous, qui meurt sur la croix pour nos péchés. C'est super concret. Et c'est notre appel comme Église à ce que les gens voient en nous des petits Christs. Si vous ne le savez pas, chrétien, c'est de là que ça vient. Hein? C'était une insulte. On les traitait de, je ne dirais pas en québécois, là, mais de petit Christ. C'est de là que ça vient. Et comment ça se fait qu'on pouvait deviner ça? Ben, ils devaient y ressembler un peu dans leur manière d'agir. Et donc, on est appelé à notre tour à incarner, à être ces gens qui habitent parmi le monde et qui sont une incarnation de Jésus-Christ devant les hommes. Mais comme Dieu est venu parmi nous dans la personne de son Fils, Jésus-Christ nous fait connaître le Père comme personne ne l'a jamais fait. Si Jésus, c'est en fait Dieu le Fils, il peut nous révéler la gloire de Dieu comme personne ne l'a jamais fait avant. La gloire de Dieu, le Fils unique. Jean nous dit qu'ils ont contemplé la gloire de Christ. J'avoue que, comme plusieurs d'entre vous, lorsque je lis les évangiles, je suis un petit peu jaloux. J'aurais aimé ça être là à ce moment-là, puis juste comme passer du temps avec lui, juste une journée. Tu sais, on aurait pu se partager une année ensemble, chacun une journée, s'en va marcher avec lui, poser des questions, le regarder, réagir. Jean, il dit, on le regardait vivre. Vous comprenez que le prologue, l'introduction de Jean l'a écrit après avoir tout expérimenté Christ. Je veux dire, lorsqu'il l'a rencontré la première fois, il n'y avait pas cette intelligence-là de savoir qui était Jésus. Mais il prenait du temps avec, puis là, il écoutait enseigner, puis là, il était là, puis il disait, mais c'est pas possible. Allez juste lire l'Évangile de Jean. Je veux dire, aujourd'hui, en 2020, vous allez lire l'Évangile de Jean, puis vous allez dire, OK, c'est solide. Que vous croyez ou non, là, que vous croyez en Dieu ou non, que vous croyez en Jésus ou non, vous allez lire ça, puis vous allez dire, aïe, il avait vraiment saisi quelque chose, ce gars-là, c'est pas possible. Alors, Jean est là, puis il est en train de le suivre, puis il le regarde aller, puis il l'écoute enseigner, puis il dit, aïe, on n'a jamais eu un enseignant comme ça, jamais. Puis là, il suit, puis il le regarde interagir, puis Jésus va vers les gens vers qui il ne devrait pas aller en principe selon les normes sociales. Il va vers les lépreux, les gens qui sont rejetés, vers la prostituée. Il va vers les gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation. On entend souvent dire que ce qu'il y a de plus précieux pour un être humain, c'est sa réputation. Ça ne devait pas être très précieux pour Jésus, en tout cas. Je ne pense pas que c'est vrai, ça. Peut-être ta réputation devant Dieu. Mais pas ta réputation devant les hommes. Si tu n'es pas prêt à perdre ta réputation devant les hommes, tu n'es pas prêt encore à suivre Christ. Tu n'es pas prêt à suivre Christ. Il y a des gens qui détruisent ta réputation. Écoute, quand tu as décidé de suivre Jésus, ce n'était pas écrit en tout petit caractère. Ce n'était pas tout petit. Tu décides de servir dans l'Église, de t'impliquer. Puis là, tu dis, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Ce n'était pas écrit en petit caractère, c'est écrit en énorme caractère. Ça s'appelait « Prends ta croix puis suis-moi », tu sais. C'est comme ça que ça s'appelait. C'est notre pain quotidien. C'est correct. Il n'y a pas de surprise. On dit du mal de moi. Aïe, peut-être que je ressemble à Christ. Peut-être pas, par exemple, check quand même. Peut-être qu'ils ont raison de dire du mal de toi, là. Peut-être que tu ne ressembles vraiment pas. Assure-toi, tu portes son nom, s'il te plaît. Jean était là, puis il découvrait Jésus. Il voyait faire des miracles, puis il était émerveillé, il était estomaqué. Il dit, mais c'est pas possible. Puis là, il voit Christ crucifié, il le voit ressuscité d'entre les morts. Il dit, écoutez, j'écris ça parce qu'on a contemplé sa gloire. On a contemplé sa gloire, sa majesté, c'est incroyable. Il dit, on a vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il dit, il n'est pas comme les autres hommes, il n'est pas comme les autres êtres humains. Il a commencé en nous disant qu'en fait, c'est la parole de Dieu qui était avec Dieu et qui était Dieu. C'est donc Dieu qui devient un homme. Et donc, progressivement, alors que Jean était en train de côtoyer Jésus, il découvrait, il l'écoutait enseigner, il le regardait agir dans ses attitudes, ses réactions, il le regardait faire des miracles, il le voit pendu au bois, là, il est bouleversé, il dit, aïe, je pense qu'on s'est trompé, c'était pas supposé finir de même. Ouais, finalement, il ressuscite d'entre les morts. Puis là, il dit, OK, attends un peu, là, c'est pas juste que Dieu nous a envoyé un sauveur, c'est que Dieu est venu nous sauver. Dieu est devenu un homme. Il est venu nous sauver. Il est venu à notre secours. Jean a vu sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, gloire incomparable. La Bible nous dit que si on croit en Jésus-Christ, quelques versets plus tôt, en fait, Jean nous dit, au verset 14, que celui qui croit en son nom a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que si tu crois en Jésus-Christ, tu vas devenir un fils, une fille de Dieu, mais tu ne seras jamais le fils, la fille unique de Dieu, parce qu'il est unique. Parce que de toute éternité, il était en communion avec le Père et l'Esprit. La Sainte Trinité est en communion de toute éternité. Et donc, il est absolument unique. Et pour cette raison-là, il peut nous faire connaître le Dieu invisible. Encore une subtilité dans le grec. Je m'excuse, vous allez dire, il faut que je prenne un cours de grec. On vous arrangera ça si vous voulez. Jean 1,18, regardez bien qu'est-ce qui est écrit. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Faire connaître qui est là, c'est le mot grec duquel on tire exégèse. Bon, c'est pas tout le monde qui connaît le mot exégèse, mais des fois vous entendez ça, on va dire d'un sociologue qui fait une exégèse de la culture, une exégèse de la société. Faire l'exégèse de quelque chose, l'exégèse d'un texte, c'est l'étudier pour pouvoir l'expliquer. Jésus-Christ est la meilleure explication de Dieu. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Il est l'exégèse de Dieu. Lorsque je saisis qui est Christ, je découvre Dieu. Plus tard, il va dire dans l'Évangile de Jean, « Si tu m'as connu, tu as connu le Père. Ceux qui m'ont vu ont vu le Père. » Maintenant, le Père va toujours demeurer invisible. Il y a juste le Fils qui est visible, mais tout son caractère, toutes ses qualités, toute sa pensée, toute sa beauté, tout son amour, toute sa tendresse, toute sa justice, toute sa sainteté, tu vas la voir en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'explication même de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis ce matin, plus j'apprends à contempler Christ, plus je grandis dans ma connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'on est des freaks de Jésus. Oui, lorsque je m'en vais parler de Dieu, c'est de Jésus-Christ que je veux parler. Alors, tu peux commencer dans l'Ancien Testament, tu vas arriver dans le livre des Juges, ça va commencer à être compliqué un petit peu. Va-t'en avec Jésus. Tu veux leur présenter Dieu, va-t'en avec Jésus-Christ, parle-leur de Christ. Tu vas pouvoir aller à la croix, tu vas pouvoir aller à son sacrifice. Il est l'explication même de Dieu. Il est l'exégèse de Dieu. Et on veut grandir, on veut apprendre à le contempler dans toute sa beauté. Je veux découvrir premièrement qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Et là, je suis comme, aïe, ok, c'est trop beau ça. Puis là, je découvre non seulement qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, mais c'est Dieu qui est venu sur la terre en réalité. Donc, il est Dieu. Ok, puis attends un peu, il est ressuscité d'entre les morts, puis à travers sa résurrection, j'ai une vie nouvelle. C'est pas juste que mes péchés sont pardonnés, c'est que j'ai une vie éternelle qui m'est promise. Puis là, je continue à l'étudier, puis là, je vois sa douceur. Puis là, je dis, ça, c'est la douceur de Dieu. Je pensais que Dieu était loin, je pensais que Dieu était distant. Puis là, je vois des gens qui sont méprisés par la culture, puis lui, il s'en va vers ces gens-là, puis il dit à cette femme-là, ouais, où est-ce qu'ils sont tes accusateurs? Elle dit, je sais pas. Il dit, moi non plus, je t'accuse plus. Je t'accuse pas. Je découvre qui est Dieu, je découvre sa compassion, je découvre sa sainteté, je découvre que ce n'est pas un Dieu qui cherche des gens religieux, il cherche des gens qui sont des adorateurs en esprit et en vérité, pas des gens qui sont là et qui apprennent des règles pour pouvoir juger tout le monde autour et dire, « Seigneur, s'il y en a un que tu prends, je pense que c'est moi, check-moi comme il faut. » Je pense que tu me prends. Vous comprenez? Non, lui, il brise tout ça, il éclate tout ça. Il y en avait plein de petits soldats comme ça qui étaient là, on les appelait des pharisiens, des docteurs de la loi. Eux autres, ils faisaient tout, puis là, eux autres, ils étaient corrects. Puis lui, il dit, ça marche pas, c'est pas ça, c'est le cœur. C'est ce qui se passe ici, c'est ce qui est vrai. C'est la relation avec Dieu, c'est l'humilité devant Dieu, c'est l'amour pour mon prochain. Un véritable amour, pas juger les autres, pas te servir de la Bible pour attaquer tout le monde, non, pour leur apporter la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. Tu découvres tout ça au fur et à mesure que tu découvres la personne de Christ. Puis là, quand tu as découvert tout ça, tu continues à étudier la Bible, tu te dis, ouais, mais il est partout. Il est partout dans la Bible. Il est annoncé dans l'Ancien Testament. Je le vois là, je le vois à travers les psaumes. C'est pas que je fabule, c'est que toutes les Écritures annonçaient Christ. Il est là, il est partout dans les Écritures. Puis là, je découvre après ça, OK, maintenant j'ai une nouvelle identité. Je suis devenu un enfant de Dieu. Non, je ne suis pas seulement un enfant de Dieu, je suis un frère de Christ, je suis un co-héritier avec Christ. Ça finit plus. Plus je le contemple, plus je suis porté de grâce en grâce. Plus je le contemple, plus je découvre Dieu. Et donc, ce qu'on veut faire ici en Église, lorsqu'on chante des louanges, lorsqu'on étudie les Écritures, lorsqu'on se réunit pour aller prendre un café et puis discuter ensemble, on veut contempler Christ. Parce que les gens autour de moi, les frères et sœurs dans l'Église, les gens dans le monde, ce qu'ils ont besoin, c'est de venir contempler Christ avec moi. Et ils ont besoin que moi, j'incarne Christ à mon tour parce que je veux les pointer dans cette direction. Jésus nous fait connaître le Dieu invisible comme personne d'autre n'a pu le faire connaître parce qu'il est l'explication même de Dieu. Il est l'explication même de Dieu. Puis enfin, à travers Jésus-Christ, on a connu la grâce comme jamais on l'avait connue avant dans toute la Bible. On a connu la grâce, la bonté de Dieu comme on ne l'avait jamais connu dans toutes les Écritures. Grâce et vérité, Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean dit, quand on vivait avec lui, on avait une incarnation de la grâce et de la vérité de Dieu. On le regardait aller, on l'écoutait parler, il enseignait la vérité de la parole comme personne n'a jamais enseigné, puis il incarnait tous les principes de la parole comme on ne l'a jamais vu chez aucun homme. grâce et vérité, vivre avec lui. Il dit, on le regardait aller, on le regardait mourir, on le regardait vivre, on le regardait enseigner, on le regardait souffrir, on le regardait être rejeté. Et ce qu'on voyait, c'était grâce et vérité. À travers sa vie, c'est ce qu'on voyait. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu apparaît à Moïse, souvent, on a une mauvaise compréhension de l'Ancien Testament, puis on dit, OK, l'Ancien Testament, c'est la loi, puis le Nouveau Testament, c'est la grâce. C'est pas vrai. C'est pas une bonne compréhension. Dans l'Ancien Testament, il y a la loi, puis avec la loi vient la grâce de pouvoir être pardonné lorsqu'on manque. C'est simplement que lorsque Jésus est venu, on a vraiment connu la grâce et la vérité. C'est pas par opposition. Christ est venu accomplir ce que j'avais dans l'Ancien Testament. Et je veux juste vous lire, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, voici ce qu'on lit dans Exode 34, les versets 5 à 7. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. » Je m'arrête ici. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a révélé qu'il était un Dieu gracieux. Et puis il a donné une loi au peuple d'Israël, une loi qui allait leur permettre d'illustrer eux-mêmes dans leur comportement la sainteté, la grâce, la bonté de Dieu. Cette loi-là prescrivait comment marcher dans la sainteté. Et ça voulait dire aussi d'aimer l'étranger qui vient au milieu de nous, d'être compatissant, de prendre soin de ceux qui souffrent. Et puis cette loi-là pourvoyait même à un moyen d'être pardonné pour nos péchés à travers des sacrifices. Puis pourtant, au verset 17, Jean dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Je ne sais pas si vous voyez dans le français, il y a deux choses qui se passent. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse est allé dans la présence de Dieu, puis Dieu lui a donné sa loi, puis il a dit, « Maintenant, va donner ça à mon peuple. » Moïse est venu, puis il a donné la loi, littéralement. Ce n'est pas lui la loi, il ne pouvait pas se donner lui-même. Il a donné ce qu'il a reçu de Dieu, il a donné la loi, d'accord? Et la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Dieu est venu, Jésus-Christ est venu nous donner lui-même, se donner pour nous. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on avait une loi qui nous disait, voici comment vous allez marcher si vous voulez plaire à Dieu. Puis Dieu leur dit, vous ne serez pas capables. Donc, il va avoir un moyen de vous faire pardonner pour vos péchés. Maintenant, lorsque Jésus-Christ vient, Jésus incarne parfaitement la loi. Et c'est ça qui était fascinant pour les gens qui le découvraient. Ils découvraient quelqu'un qui manquait jamais à la loi. C'était comme, tu lis les Proverbes, Jésus était les Proverbes en action. Littéralement. Tu lis la loi, puis là, tu suis Jésus, puis tu dis, aïe, aïe, OK, si la loi s'incarne, c'est ça que ça a de l'air. Parce que la loi est bonne. La loi a plein de prescriptions qui sont super saines. C'est très, très bien. Christ l'incarnait parfaitement. Donc, il accomplit la loi. Lorsque Moïse vient, il nous donne la loi, puis là, inévitablement, ce que ça fait, c'est que tu es là, puis tu te dis, ouais, mais j'y arriverai pas. C'est correct, c'est pour ça qu'il y avait des sacrifices dans l'Ancien Testament. Christ vient, puis il dit, je sais que tu n'y arriveras pas. Regarde, moi je vais le faire à ta place. Tu vas voir en vérité c'est quoi marcher selon Dieu. Puis je vais aller mourir sur la croix pour tes péchés. Tu vas connaître la grâce, le pardon de Dieu. Le grand réformateur Martin Luther a longtemps combattu dans son cœur avec Dieu parce qu'il n'avait pas saisi la grâce vraiment. Puis il était là, puis il lisait les Écritures, il enseignait la parole de Dieu, c'était un théologien, il enseignait constamment la parole de Dieu, puis il était là, puis il voyait la loi, puis là il voyait la loi, puis là il voyait la loi, puis la loi déposait sur lui un fardeau de sainteté, parce qu'il dit, cette loi-là est bonne, puis là, il était là, puis il n'y arrivait pas. Il était pris dans une compréhension du christianisme qui était fausse, littéralement fausse, parce qu'il était accablé. Puis là, quand il réalisait qu'il avait manqué envers la loi, là, il devait faire pénitence. Là, il devait payer pour ses fautes. Puis là, il payait pour ses fautes. Puis là, il disait, mais c'est accablant, cette affaire-là. Il avait reçu la loi, c'est tout ce qu'il avait reçu. Pourtant, il avait entendu parler de la grâce. Il enseignait Romains. Je veux dire, c'est la lettre pour comprendre la grâce. Mais l'Église s'était tellement éloignée de la vérité des Écritures que ce n'était plus l'Église. Elle n'enseignait plus la parole. Elle n'enseignait plus la grâce. Et puis un jour, Martin Luther a saisi la grâce de Dieu. Et il a dit, OK, attends un peu, là. Il y a juste Christ qui a accompli la loi parfaitement. Il n'y a pas un être humain qui peut le faire. Je ne peux pas porter ce poids-là. Il n'y a personne qui peut y arriver. Il y a juste lui qui peut le faire. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui nous révèle vraiment Dieu. Et il est mort sur la croix afin que je reçoive de lui grâce sur grâce, sur grâce. Et là, Martin Luther a été libéré de tous ses fardeaux. Il a poursuivi la sainteté toute sa vie après. Mais il savait qu'il y a seulement Christ qui l'a accompli, la sainteté. Et il savait qu'il était pardonné de ses péchés. Et donc, il était libre maintenant de poursuivre la sainteté sans être accablé constamment par ses propres échecs. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à contempler Jésus-Christ. Il a détourné ses regards de la loi, puis il a commencé à contempler Christ. Si la vie chrétienne te semble lourde, parce que tu dis, ah, je voudrais être un chrétien, tu sais, zélé. C'est quoi que je vous ai dit la semaine dernière? Fixe les yeux sur Christ. Contemple-le dans toute sa majesté, dans toute sa beauté. Réalise que ce n'est pas seulement un sauveur qui nous a été envoyé, c'est Dieu qui s'est fait homme. Regarde-le dans toute la vérité de ce qu'il a incarné. C'est le modèle parfait. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu le Père comme personne d'autre pouvait le faire connaître parce qu'il est Dieu le Fils. Et lui seul a vu Dieu. Même le grand Moïse n'a pas vu Dieu en face réellement. Lorsqu'il a dit à Dieu, montre-moi ta gloire, Dieu a dit, si je me manifeste comme ça, tu vas mourir. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer devant toi, mais je vais te couvrir. Et ce que tu vas voir, c'est l'éclat, tu vas voir le reflet de ma gloire. Puis Dieu le Fils est devenu un homme. Puis parce qu'il est devenu homme, on a pu entrer dans sa présence. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Ma prière, c'est qu'à travers cette série dans l'Évangile de Jean, tu puisses redécouvrir Christ comme tu ne l'as jamais découvert. Ma prière, c'est qu'à travers cette série dans l'Évangile de Jean, Jésus-Christ prenne à tes yeux toute la place qu'il est censé prendre. Que les choses reprennent leur juste proportion. Christ est plus grand que nature parce qu'il est Dieu fait homme. Christ est plus beau que tout ce que tu vas voir sur la terre parce qu'il est Dieu qui incarne son amour, sa grâce, sa sainteté, sa beauté, sa majesté. Et dans la mesure où tu crois en lui, tu peux devenir un enfant de Dieu. Peut-être que dans ton cheminement, tu n'es pas encore chrétien. Mais tu viens à l'Église, tu es curieux, tu poses des questions, tu es né dans un foyer chrétien, tu regardes les choses. Puis tu dis, OK, il y a sûrement un créateur de la matrice à quelque part, il y a quelqu'un au-dessus de ça, on n'existe pas juste par accident, il y a quelqu'un de plus grand. Mais en même temps, il semble loin. Moi, je t'invite à rester avec nous pour cette série-là dans Jean. On va passer plusieurs semaines ensemble. Et ce que Jean nous dit au tout début de son évangile, il dit, prenez la mesure du personnage, parce que maintenant, on va le découvrir de jour en jour, à travers ses paroles, à travers ses actions. Il va se révéler à nous. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, qu'on puisse avoir une fraîche révélation de la personne de Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient t'adorer encore une fois ce matin. T'es plus grand que nature, Seigneur. T'es merveilleux. Tu es Dieu le Fils. Seigneur, j'ai énormément de difficultés à saisir à quel point tu es près de moi dans ton humanité, à quel point tu as vécu des souffrances que je vis, Seigneur. Et pourtant, c'était ma prière cette semaine. Aide-moi, Seigneur, à goûter ta compassion. Viens par ton Esprit Saint me convaincre que ce que je ressens, Seigneur, non seulement tu le vois du haut des cieux, mais tu l'as vécu comme être humain, Seigneur. Et donc, tu as compassion parce que tu es passé là où je suis passé, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de venir te faire connaître à nous. Tu nous dis dans ta parole de demander. Seigneur, on demande selon ta volonté. Viens te faire connaître à nous, Seigneur. Je te prie pour celui d'entre nous qui a l'impression que tu es loin. Il est chrétien, elle est chrétienne, Seigneur, mais il a l'impression que tu es tellement loin d'elle, tellement loin de lui, Seigneur. Viens à travers ta parole lui chuchoter à l'oreille. Je suis ici, je te comprends, je suis là. Et je veux te transporter, je veux te révéler Dieu avec vérité, avec grâce, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour celui qui vient, qui fréquente cette assemblée, qui ne te connaît pas encore, Seigneur, et qui dit, peut-être y a-t-il un Dieu quelque part, un créateur de l'univers, mais est-ce que vraiment on peut le connaître? Est-ce que vraiment il se préoccupe de nous? Seigneur, convainc-le que tu es venu sur la croix mourir pour des pécheurs, Seigneur, afin que nous entrions dans la famille de Dieu. Oh Seigneur, sois exalté. Seigneur Jésus, sois élevé. Viens prendre toute la place qui te revient dans nos cœurs. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.